Nous continuons l'étude du droit des contrats tel qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2016 et nous abordons maintenant deux distinctions. La distinction du général et du spécial, d'une part, la distinction de l'impératif et du supplétif, d'autre part. Et pour cela, nous avons avec nous Madame Caroline Tabouro-Yeste, maître de conférence à l'École de droit de la Sorbonne et spécialiste de droit des affaires, et Philippe Dupichot, professeur à l'École de droit de la Sorbonne et spécialiste, entre autres, de droit des contrats. Donc, abordons déjà la question de la distinction du général et du spécial. La réforme du droit des contrats porte sur la partie droit général, droit commun des contrats. Elle ne touche pas les différents régimes spéciaux qu'on rencontre dans le code civil, contrat de vente, de mandat, de dépôt, dans d'autres codes, code de commerce, code monétaire et financier, contrat de travail dans le code du travail ou dans des lois spéciales. Donc on a une réforme qui touche le droit commun, le droit général. Comment cela s'articule-t-il avec ces différents droits spéciaux, Philippe ?
Alors je pense qu'une première remarque peut-être que l'on peut faire, c'est que cette articulation du droit spécial et du droit général est déjà une des dimensions de la réforme, puisque un des projets de ce nouveau droit des contrats, c'est de puiser des innovations et des modifications dans les droits spéciaux pour les faire remonter au droit commun. On a déjà discuté par exemple de la réfaction du contrat, solution classique dans la vente, qui est remontée au droit commun à travers la réduction du prix. Et de la même façon, par exemple, l'exigence d'une contrepartie non dérisoire ni illusoire est une règle du droit de la vente, droit spécial, qui remonte au droit commun. Alors maintenant que ce nouveau droit commun s'est enrichi du droit spécial, la question qui se pose est, comme le disait Bruno, celle de son articulation avec les droits spéciaux qui, eux, sont inchangés. Alors, de ce point de vue-là, on est familier d'une disposition qui est l'article 1107 du Code civil. Cet article 1107 du Code civil actuel avait été oublié du projet d'ordonnance du 25 février 2015. Et à juste titre, des praticiens et des universitaires s'en sont émus dans la consultation. Et aujourd'hui, cet article est peu ou prou ressuscité, avec quelques modifications, à travers un article 1105 du Code civil que l'on va peut-être pouvoir voir à l'écran.
Alors quand tu parles de la consultation, précisons que c'est la consultation publique qui est intervenue sur le projet d'ordonnance qui avait été diffusé.
Exactement, c'est une consultation qui est intervenue sur le projet d'ordonnance au cours de laquelle des praticiens, des universitaires ont formulé des remarques à l'attention de la chancellerie afin d'essayer de corriger, d'améliorer le projet. Et je crois que c'est un des cas dans lequel cette consultation était le plus utile, puisque sinon aurait fait défaut cette articulation du droit commun et du droit spécial. Donc aujourd'hui, nous avons face à nous un article 1105 nouveau du Code civil, lequel comporte trois alinéas et qui offre, je crois, une articulation assez intéressante entre le droit commun et le droit spécial. Il me semble qu'il y a plusieurs articulations possibles, rappelons-le, entre le droit spécial et le droit commun. Assez souvent, le droit spécial a pour objet de préciser, de développer les règles du droit commun en les appliquant à un cas particulier. Ainsi, le contrat de vente va préciser les règles de la garantie qui ne sont pas prévues par le droit commun. Parfois, le droit spécial va se contenter de répéter le droit commun, on en parlera guère, ce n'est pas spécifique, mais bien souvent, le droit spécial, en revanche, va déroger au droit commun. On connaît évidemment l'adage « spécialia generalibus derogant », les règles spéciales dérogent aux règles générales. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 7 décembre 2015, en a fait une application inavouée en matière de gage des stocks, pour refuser la possibilité de se soumettre au régime du droit commun du gage lorsque l'on relève du gage spécial des stocks. Alors, qu'en est-il aujourd'hui dans ce nouvel article 1105 ? Dans son premier alinéa, l'article 1105 indique que le nouveau droit commun s'applique à l'ensemble des contrats. Donc ça, c'est la première règle, que les contrats soient des contrats nouveaux et spéciaux, ou que les contrats soient des contrats innommés, ils ont été créés par les parties et ne figurent pas au catalogue législatif, ils sont soumis à ce nouveau droit commun. C'est l'article 1107, ancien, alinéa 1er. La deuxième règle, le deuxième alinéa, est tout aussi important. Il nous indique que les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières, c'était l'alinéa 3, on va peut-être parler de l'alinéa 2. Les règles particulières à certains contrats, pardon, sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. C'est l'ancien article 1107, alinéa 2. En vertu de cette règle, eh bien, les règles spéciales sont déterminées dans les droits spéciaux. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que lorsqu'on est en présence d'un contrat nommé, un contrat de mandat, un contrat de bail, un contrat d'entreprise, un contrat de dépôt, eh bien, on va, en plus de ce nouveau droit commun, appliquer tout naturellement les règles spécifiques à ce contrat spéciale. La question qui subsiste, c'est celle de l'alinéa 3, c'est quel est le rayonnement du droit commun lorsque le droit spécial ne dit rien. Et de ce point de vue-là, on a un alinéa intéressant qui nous dit effectivement les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières, c'est-à-dire que le nouveau droit commun des contrats, ainsi rénové, a vocation à rayonner même sur les droits spéciaux, dès lors que ces droits spéciaux sont silencieux sur une règle particulière.
D'accord, mais alors on n'a pas besoin du coup d'avoir ce qu'on avait à l'article 1107, les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce, parce que finalement c'est un droit spécial parmi d'autres.
Je crois que c'était la position du législateur, je crois qu'on en discutait ensemble.
C'est vrai que finalement, ça n'a plus lieu d'être, puisque finalement, on a des règles spéciales et les transactions font partie de ces règles spéciales, comme la plupart des règles même en droit des sociétés. Et il est inutile donc de garder cet article, cet alinéa, pardon, donc qui a été supprimé. Donc c'est vraiment là les changements de la réforme, c'est-à-dire cette suppression de l'alinéa 3 de l'article 1107 du Code civil, pour qu'on lui substitue justement les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
D'accord, alors c'est vrai, je vous interromps un instant, c'est vrai qu'on va peut-être avoir des difficultés à savoir ce que, enfin, c'est pas ce que disent les règles spéciales, mais lorsqu'on nous dit les règles générales s'appliquent sous réserve des règles particulières, on va avoir peut-être du mal à concilier ces règles. Et une question qu'on a déjà évoquée en discutant entre nous, c'est la question des pouvoirs des dirigeants. Pouvoirs des dirigeants de société, par exemple. Dans les règles sur la représentation, on a un article qui nous dit qu'il faut les apprécier de manière, lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. Ça vise le représentant dans le Code civil. Est-ce que vous pensez que ça vise aussi les dirigeants de sociétés qui ont, eux, des règles spéciales, pour le coup?
C'est pas évident, puisque, justement, les dirigeants de sociétés ont un package de règles qui leur sont propres. Et justement, il faut concilier ces règles et peut-être les faire prévaloir par rapport au droit général. La primauté du droit spécial, aura toute une force, puisque finalement, les règles du droit général devront s'effacer vis-à-vis des règles spéciales.
Et c'est vrai que ça serait perturbant en pratique s'il fallait revoir les pouvoirs de chaque dirigeant à l'aune de ce texte, en se demandant si, est-ce qu'on a rédigé ces pouvoirs en termes généraux ou pas, autre application du général et du spécial. Alors, première distinction que nous avons vue. Deuxième distinction, le temps passe vite, distinction entre l'impératif et le supplétif. Et là, c'est une question vraiment délicate, parce que la question est de savoir finalement, quand nous avons des règles de droit des contrats posées par le Code civil, par l'ordonnance donc du 10 février 2016, est-ce que ce sont des règles qui sont impératives, auxquelles les parties ne peuvent déroger, ou des règles supplétives, c'est-à-dire que la volonté des parties peut écarter. Et parfois, on nous dit que telle disposition est d'ordre public et qu'on ne peut pas l'écarter, et la plupart du temps, on ne nous dit rien. Alors, je me tourne vers Philippe, quelle est la solution ?
Alors la solution est difficile à percevoir, mais si l'on se tourne vers le rapport au président de la République, on trouve sur cette question des éclaircissements tout à fait intéressants et, je dois dire, assez surprenants. En effet, il est indiqué dans le rapport relatif à l'ordonnance que le principe général est celui du caractère supplétif des textes, de sorte que, sauf mention expresse du caractère impératif d'un texte, on doit en déduire que le principe est la liberté des parties de déroger au texte en question. Alors, on pouvait penser que c'était un principe qui était en filigrane dans notre droit. Il est affirmé dans le rapport, et je crois que c'est probablement là une source de réflexion pour les praticiens et d'imagination contractuelle pour plus, je crois, de liberté et d'efficacité économique.
Oui, le fondement étant trouvé apparemment dans l'article 1102 du Code civil, qui nous dit que chacun est libre, donc c'est la règle de la liberté contractuelle, et où on nous précise la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Donc l'idée serait que, à partir de ce texte, on en déduirait que il faut que les articles du Code précisent qu'ils sont d'ordre public pour qu'ils le soient.
On en reviendrait peut-être à un ordre public textuel. En tout cas, je crois que même si on peut difficilement imaginer qu'on aille aussi loin. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Lorsque le législateur définit ce qui est un terme ou une condition, il n'est pas question de déroger, par exemple, à ces définitions. Mais je crois que lorsqu'on sera confronté à une difficulté, on pourra arbitrer par préférence et en priorité en faveur de la liberté, qui est le principe, et de l'ordre public, qui doit rester l'exception.
Oui, ce qui sera, enfin, pas toujours évident, est-ce que ce n'est pas la rédaction du texte qui doit aussi nous guider, un texte qui est rédigé de manière ferme, même s'il ne dit pas qu'il est d'ordre public, serait alors impératif. En droit des affaires, on rencontre des droits qui sont particulièrement impératifs, à opposer du coup à ce nouveau droit des contrats qui serait...
En droit des affaires, notamment dans le code de commerce, hein, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de règles où justement il est précisé que c'est d'ordre public. On peut également penser, par exemple, à la liberté en matière de SAS, où justement...
Société par action simplifiée,
où justement, on nous liste, en fait, ce qui est permis et ce qui est, justement, interdit. Là, pour rebondir par rapport à l'article 1102 du Code civil, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le législateur a pris soin de remplacer le terme « règle » par rapport au terme « loi ». Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que l'ordre public ne sera pas forcément, écrit par une loi, mais pourra provenir de règles. Alors quel est ce terme de « règle » ? On peut se dire, finalement, les règles de l'ordre public, donc c'est pour ça que peut-être pas forcément un ordre public textuel, mais on peut penser que ça provient, justement, d'un ordre public judiciaire aussi, ou de règles qui ne sont pas forcément des règles législatives.
Vous avez tout à fait raison, c'est le juge qui passera derrière pour dire, finalement, quelles sont les règles qui intéressent l'ordre public. Eh bien voilà, donc nous avons vu cette double distinction du général et du spécial, et de l'impératif et du supplétif. Je vous remercie.